soirée à vous à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h. Tout de suite le journal, Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. À la une de l'actualité ce soir, ce drame sur le Rhin. 3 morts et une fillette disparue. Leur petit bateau gonflable a chaviré près d'une écluse. Le suspect de l'attaque au colis piégé à Lyon est toujours interrogé par la police antiterroriste. Il a reconnu aujourd'hui avoir prêté allégeance au groupe État islamique. En Espagne, la polémique après le suicide d'une jeune femme. Son ancien petit ami avait diffusé une vidéo intime d'elle au sein de son entreprise. Tous les aliments transformés présentent des risques pour la santé, même ceux qui apparaissent les plus sains. C'est ce que révèlent 2 enquêtes européennes. Et puis cette belle histoire à Roland-Garros, un jeune Français, 146e mondial, crée la sensation après avoir éliminé Fernando Verdasco, tête de série numéro 27. Comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir à 22h20 Françoise Bresson, directrice de la communication de Perrier, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
Un canot pneumatique a chaviré à hauteur de Gersheim en Alsace. Le bilan est lourd. 3 morts et une fillette est toujours activement recherchée. D'importants moyens sont déployés, Arthur Elbaché.
Il y a des plongeurs, il y a des chiens, des brigades cynophiles. Ils sont debout sur de petits canots jaunes. Ils reniflent la surface du fleuve au milieu du Rhin. Les pompiers, les plongeurs disent que la visibilité est bonne, mais ça veut dire qu'ils arrivent à voir leurs mains sous l'eau, pas plus loin. Le lieutenant-colonel Koenig coordonne les secours sur place.
Un hélicoptère a élitreillé une des victimes qui se situait sur un plot en béton au milieu du fleuve. Elle a réussi à sortir de l'eau, on l'a élitreillée, elle ne souffrait que d'une légère hypothermie. Malheureusement, un petit peu plus tard, nos homologues allemands ont découvert sur la berge côté opposé une fillette en arrêt cardio-respiratoire qui est décédée depuis. 3 personnes se sont jetées à l'eau pour leur venir en aide et une de ces personnes a disparu dans le fleuve. On l'a retrouvée un petit peu plus tard, bloquée par les branchages et les remous. Elle est maintenant décédée.
Alors que s'est-il passé fin de matinée? 2 adultes, 2 enfants sur un canot pneumatique. Il y a du courant, le bateau chavire. Ici, il faut savoir que l'eau est à 14 degrés et juste à côté de moi, il y a ce panneau « Danger, utilisation d'engins de plage et de canots pneumatiques strictement interdit ».
Arthur Elbaché à Gersheim pour Europe 1. Autre drame, autre naufrage en Hongrie, à Budapest sur le Danube. Au moins 7 personnes sont mortes, 21 autres toujours portées, disparues. Un bateau d'excursion avec à son bord 33 touristes sud-coréens a coulé en quelques secondes hier soir après avoir percuté un bateau de croisière. On commence à en savoir un peu plus sur les motivations de l'homme de 24 ans qui a avoué avoir déposé le colis piégé vendredi à Lyon, alors qu'il n'était jusqu'ici pas très coopératif depuis le début de sa garde à vue. Le suspect commence à se livrer, Guillaume Bié.
Et au 3e jour d'interrogatoire, il est sorti de son silence pour expliquer aux policiers qu'il a agi en soutien à Daesh. Il affirme même avoir fait allégeance au groupe État islamique. C'est ce que précise une source judiciaire. D'après nos informations, il explique en résumé avoir voulu frapper juste avant l'élection européenne pour faire monter le populisme, le racisme et pousser en retour les musulmans à se révolter. C'est typiquement l'une des stratégies qui est développée par Daesh. Désormais, l'étudiant algérien le reconnaît. C'est bien lui qui a conçu l'engin explosif. Un projet d'attentat qu'il mûrit depuis des mois déjà et qu'il a concrétisé en mars dernier quand il a passé sa première commande en ligne pour acheter les composants de sa bombe. Son objectif était clair, faire un maximum de victimes dans un lieu public. Voilà ce qu'il dit aux policiers de la sous-direction antiterroriste qui enquête sur ses déclarations, sur sa radicalisation islamiste qui était passée totalement inaperçu. Ce soir, il est donc toujours en garde à vue. En revanche, ses parents et son frère ont été remis en liberté et aucune charge n'est retenue contre eux.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. C'est un chiffre aussi surprenant qu'inquiétant en quelques jours à peine en France. En une semaine, 6 détenus ont réussi à se faire la belle. Julien Pierce, et ce sans violence.
Eh bien, sans aucun coup de feu ni goutte de sang versé sur les 6 prisonniers qui se sont évadés depuis jeudi dernier, 5 d'entre eux se sont fait la belle dans le cadre d'extraction médicale, c'est-à-dire quand les détenus sont amenés à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé ce mardi, par exemple. Un homme de 26 ans, écroué en Isère pour le meurtre de sa femme, devait passer une échographie consécutive à une déchirure musculaire. Eh bien, à l'arrivée du fourgon à l'hôpital, le prisonnier a surpris les 3 agents pénitentiaires à l'ouverture de la portière. Il a pris les jambes à son cou, escaladé un mur de 3 mètres, et ce, malgré les menottes et s'est ensuite volatilisé. Jeudi dernier, en revanche, c'est à la suite d'une extraction judiciaire, cette fois qu'un détenu a réussi à s'échapper. En route pour le tribunal d'Alès dans le Gard, l'homme a prétexté une envie très pressante pour faire arrêter le fourgon au bord de la route. Une fois dehors, il a violemment bousculé les surveillants et pris la fuite. Bien évidemment, ces 6 fugitifs sont activement recherchés, sans succès pour l'instant. 6 détenus qui se font la belle en seulement une semaine, c'est considérable. En comparaison, seules 10 évasions ont été recensées l'année dernière.
Julien Pierce. Samedi, acte 29 des Gilets jaunes, les policiers mis en cause lors de manifestations seront renvoyés devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Annonce du procureur de Paris, Rémi Heitz, dans une interview à paraître demain dans Le Parisien. Sur les 174 enquêtes ouvertes pour des violences impliquant les forces de l'ordre, 57 dossiers sont en cours d'analyse au parquet.
Le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle du revenge porn. Le fait de diffuser sur les réseaux sociaux des images ou vidéos de son ex à caractère sexuel pour se venger d'elle ou de lui. En Espagne, l'histoire a viré au drame puisqu'une jeune femme, victime de cette vengeance, a fini par se suicider. Henri de la Guérie.
Oui, effectivement, Véronica s'est donné la mort par pendaison samedi matin. Elle était mère de 2 enfants, un bébé de 9 mois et une fille de 4 ans. Pendant une dizaine de jours, dans l'usine de camions Iveco près de Madrid pour laquelle elle travaillait, une vidéo d'elle à caractère sexuel circule sur les téléphones de ses collègues via WhatsApp. Une vidéo vieille de 5 ans qu'elle a tournée avec un autre employé de l'entreprise. C'était avant de faire la connaissance de son mari, avant d'avoir des enfants. C'est l'ex, sans doute par jalousie, qui exhume cet enregistrement. Au travail, la situation devient rapidement intenable pour Véronica, qui ne supporte pas les regards, les rires, les moqueries. Son mari le vit également très mal et à bout. Elle alerte le comité d'entreprise et les syndicats sans succès. Elle finit donc par se suicider. Hier, chez Iveco, parmi ceux qui ont observé une minute de silence en sa mémoire, beaucoup ne devaient pas avoir la conscience tranquille. Cette histoire très médiatisée ici provoque une onde de choc et relance le débat sur le harcèlement sexuel au travail. Pour beaucoup, il s'agit d'un cas de violence machiste. Un juge vient d'ouvrir une enquête. Ceux qui ont diffusé et relayé la vidéo seront sans doute poursuivis. Ils risquent des peines de prison.
Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Le message alarmant de l'avocate de Mathias Echen. La santé de ce Français de 49 ans, emprisonné à Bali, en Indonésie, depuis juillet 2017 pour un litige commercial, s'est considérablement détérioré. Pour protester contre sa détention, il est en grève de la faim depuis début avril. Écoutez son avocate Clémence Witt.
Nous sommes face à un blocage total des autorités indonésiennes qui refusent d'appliquer le droit et qui met en péril la survie d'un ressortissant français. C'est pour protester contre ce déni de justice et contre ces conditions de détention que Mathias Echen a initié une grève de la faim le 1er avril dernier. Aujourd'hui, il est extrêmement affaibli, il n'est plus en état de marcher, il a perdu plus de 18 kilos, il a des vertiges, des nausées, des douleurs au cœur. Nous demandons à l'Indonésie d'hospitaliser de toute urgence ce ressortissant français arbitrairement détenu sans accès à des soins et on craint une issue fatale dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
Maître Clémence Witt répondait à Romain Oquet pour Europe 1. Israël plongé dans une crise politique. Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à former une coalition de gouvernement et du coup convoque de nouvelles élections quelques mois à peine après un précédent scrutin. Un sérieux revers pour le Premier ministre israélien Justin Morin.
Oui, puisque jusqu'à présent, Benjamin Netanyahou, décrit comme un animal politique prêt à tout pour rester au pouvoir, avait toujours réussi à retomber sur ses pattes. Pas cette fois. Il aura pourtant tout promis à tout le monde, tout essayé pour tenter de trouver une majorité au Parlement. Les menaces, les négociations, les compromissions même, puisque Netanyahou, champion de la droite nationaliste, est allé jusqu'à proposer des postes de ministre à la gauche pour rallier des élus. Mais non, personne n'a accepté de rentrer dans son jeu et c'est un désaveu majeur pour celui qui est au pouvoir depuis 10 ans. En fait, le problème, c'est que ses anciens alliés ne répondent plus, et notamment les conservateurs de son ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Ils sont en désaccord sur un projet de loi bien précis, mais en toile de fond, il y a surtout l'ombre des affaires qui planent sur Benjamin Netanyahou. Son nom est mêlé à 3 dossiers de corruption dans lesquels il risque d'être inculpé. Il doit être entendu par la justice début octobre, soit 2 semaines après le nouveau vote, c'est vous dire le contexte dans lequel se tiendra le scrutin. C'est donc le début d'une nouvelle campagne qui se résumera une fois de plus à cette question. Pour ou contre Netanyahou, plus aussi invulnérable qu'il n'y paraît.
Merci Justin Morel. Les Israéliens retourneront donc aux urnes le 17 septembre prochain, une issue que regrette Donald Trump. La dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après avoir quitté Bruxelles ce matin. L'ancien Premier ministre congolais, figure du pays et père de l'actuel président, Félix Tshisekedi, sera inhumé samedi, 3 ans après sa mort. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires sont prévus.
Europe 1.
Aux États-Unis, un hôpital de Californie a annoncé la naissance du plus petit bébé à être venu au monde. Une petite fille qui pesait seulement 245 grammes. Elle est née en décembre, à 23 semaines de grossesse. Après 5 mois passés à l'hôpital en soins intensifs, elle a pu enfin regagner sa maison. Un miracle, certes, mais qui pourrait ne pas être sans conséquences, comme l'explique Charlotte Bouvard, la présidente de l'association SOS Préma.
Ces termes de prématurissime, comme on les appelle, la survie est quand même très en suspens. Sébi est restée 5 mois à l'hôpital. Elle est née très prématurée et a un poids extrêmement faible. On peut imaginer que la suite va être compliquée. Les conséquences peuvent être neuro, peuvent être physiques. Enfin, il peut y avoir des séquelles compliquées. Et malheureusement, ces séquelles ne sont décelables totalement qu'à l'âge de 7 ans, au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, lorsque l'enfant peut laisser apparaître, par exemple, des troubles du comportement, des troubles de la concentration, des troubles auditifs. Hein, voilà, il y a toutes sortes de séquelles qui peuvent être décelées un peu plus tard.
Charlotte Bouvard, la présidente de l'association SOS Préma, répondait à Sébastien Rouxel pour Europe 1. Je vous le disais en titre, attention aux aliments transformés. 2 études européennes, dont une française, alertent sur leur danger pour la santé. Les consommer augmente le risque de maladies cardiovasculaires, l'obésité ou l'hypertension artérielle. Et même des aliments présentés comme sains sont concernés. C'est ce que nous détaille Mathilde Touvier, chercheur à l'INSERM et auteur d'une de ses enquêtes.
On peut avoir un aliment qui, d'un point de vue nutritionnel, est bon, mais qui, par contre, est ultra transformé. L'exemple le plus frappant, c'est notamment les soda light, qui, d'un point de vue énergétique, n'apportent pas d'énergie, pas de sucre, etc. Par contre, là, on est typiquement dans un produit totalement ultra transformé, avec des additifs, des édulcorants, etc. Dans les produits de type steak végétarien reconstitué ou ce genre de choses, il y a une liste souvent d'additifs et de texturant qui est importante. Et là encore, d'un point de vue nutritionnel, parfois, on est bon. Donc, on peut avoir un Nutri-Score qui est correct. Et par contre, d'un point de vue composition et additif, ça fait partie des choses sur lesquelles on se pose des questions.
Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, au micro Europe 1 d'Ève Roger. Le tennis.
Roland-Garros 2019 sur Europe 1.
Et la belle histoire à Roland-Garros aujourd'hui, c'est Antoine Hoang, ce jeune Français inconnu au bataillon, qui est classé 146e, qui a réussi l'exploit de s'imposer au deuxième tour en sortant la tête de série numéro 27, Fernando Verdasco. Christophe Lamarre.
Il a levé les bras mais n'a pas exulté. Antoine Hoang est du genre introverti. Il a quand même accepté de se laisser prendre en photo par les spectateurs. Il a même signé quelques autographes sur les t-shirts et les balles de tennis qu'on lui tendait. À 23 ans, il se retrouve en pleine lumière. Il le sait, battre un top 30 mondial qui répond au nom de Fernando Verdasco, cela s'appelle un exploit. Antoine Hoang a du mal à en réaliser la portée.
Je reçois plein de messages, etc. Et c'est plus par rapport aux messages, etc. que je me rends compte de ce que j'ai fait. Après, je suis plutôt quelqu'un qui reste les pieds sur terre et je pense que c'est important ici. Donc même, je regarde pas trop le portable pour pas me laisser disperser. J'ai fait 2 bonnes performances et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, j'essaie de faire les choses petit à petit et quand ça marche, faut sourire, mais il faut se remettre au boulot aussi.
Bosser encore et encore. Ce cérébral qui se pose 1000 questions l'avoue bien volontiers. Son prochain match face à Gaël Monfils sera forcément particulier. D'abord parce qu'il aura lieu sur un grand court et ensuite parce qu'il est fan de Gaël Monfils.
Merci Christophe Lamarre à Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi. Pour le reste des résultats, aucune Française ne jouera le 3e tour de Roland-Garros qui n'était plus arrivé depuis 33 ans. La numéro 1 tricolore, Caroline Garcia, a été éliminée au 2e tour par la Russe Blinkova, 117e mondiale, en 3-7, 1-6, 6-4, 6-4. Côté messieurs, c'est fini pour Gilles Simon et Adrien Manarino. Merino. Lucas Pouille, en mauvaise position, terminera son match demain face au Slovaque Klizan. Ça passe en revanche donc pour Gaël Monfils qui affrontera le jeune Hoang au troisième tour. Ça passe également pour Novak Djokovic, Dominic Thiem et Juan Martín Del Potro. Et puis notez demain cette matinale spéciale sur Europe 1 puisque Nikos Aliagas sera en direct de Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et le football à présent, et on joue actuellement les barrages pour accéder à la Ligue 1. Lens mène 1-0 contre Dijon. Un but de Jean Rickner Belgain suffit pour l'instant au bonheur des 100 heures, même s'il y aura bien sûr un match retour dimanche à Dijon. Le temps de demain, Elena Morna, on attend les premiers pics de chaleur de l'année.
On va effectivement collectionner les 30 degrés demain après-midi entre l'Aquitaine et la vallée du Rhône. Autant de régions sous un ciel bleu, ce sera un peu moins chaud, un peu moins bleu sur le massif central et la moitié nord, mais une très belle journée en perspective. Alors je vous donne quelques températures pour demain après-midi. 17 degrés à Boulogne-sur-Mer, 21 à Noirmoutier ou Gérardmer, 22 à Quimper et Caen, 23 à Lille et Nice ainsi qu'à Ajaccio, 25 à Colmar et Montpellier, 26 pour Paris, pour Nantes, Bourges, Auxerre, 27 à Poitiers, Lyon et Grenoble, 29 pour Bordeaux, 30 degrés pour Cahors et Avignon. Samedi sera le D-Day du soleil et de la chaleur qui remontera cette fois jusqu'au nord. 29 degrés en moyenne au nord, 30 au sud. Je parle bien d'une moyenne, donc autant vous dire qu'on aura localement des 32-34 degrés. Hein. Dimanche, 30 degrés en moyenne, mais partout cette fois. Moins beau sur la Bretagne avec l'arrivée de la pluie en mi-journée. Le conseil finalement, profitez bien de ce beau et long week-end. La semaine prochaine sera un peu plus grise, un peu plus humide, un peu plus fraîche, un peu moins belle.
Merci Elena Morna, promis, on va en profiter. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, la Bourse avec Claire Lemaître et l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Françoise Bresson, la directrice de la communication de Perrier. On se retrouve dans un très court instant. À 22h17, on fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Et Wall Street a hésité ce soir après plusieurs séances difficiles.
Oui, et c'est finalement du vert, même si le climat reste anxiogène, toujours plombé par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Le Dow Jones s'adjuge un petit 0,17%, 25 170 points. Le Nasdaq plus 0,27%, 7 568 points. Donc ça monte, mais c'est timide ce soir. Les taux d'intérêt à moyen et long terme américain continue de baisser. Les obligations font office de refuge car moins risquées que les actions pour les investisseurs. Ça aggrave l'inversion de la courbe des taux et ça augmente les craintes d'une récession aux États-Unis dans les trimestres qui viennent.
Et dans ce contexte, eh bien, faut dire que le pétrole n'a pas beaucoup aidé les marchés ce soir.
Les cours du brut ont terminé en forte baisse à New York, repli de 3,8%. On est à $56,59 le baril. C'est la conséquence, là aussi, des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Les investisseurs redoutent que le conflit freine la demande de pétrole. Du coup, les géants pétroliers souffrent. Chevron moins 1,2%, ExxonMobil perd 0,2%. Et puis PVH plonge de près de 15%. PVH qui est propriétaire des marques de vêtements Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Le groupe a réduit sa prévision de bénéfices par action annuelle. Il évoque notamment l'impact de la montée des barrières douanières. Et puis du côté des devises, eh bien l'euro gagne 0,1% et s'échange contre $1,1136.
On va s'intéresser à la bourse de Paris. Et c'était une séance calme, jeudi, de l'ascension oblige.
Oui, le CAC 40 a repris un peu d'altitude dans une séance plus calme qu'à l'accoutumée. Une belle séance tout de même pour le luxe. Kering est en tête du palmarès sur un gain de 2,9%. LVMH gagne 1%. Belle performance aussi pour Rémy Cointreau après le relèvement du conseil de Morgan Stanley. Pour la banque américaine, le groupe de spiritueux conserve de belles perspectives de croissance. L'action grimpe de 3,9%. Et puis ça monte aussi pour Casino, plus 6,2%. Le distributeur a beaucoup souffert récemment des déboires liés à son endettement.
Et puis il y a un secteur qui souffre particulièrement en ce moment, c'est l'automobile et la séance a été assez compliquée.
Oui, encore un repli de 0,6% pour Renault, moins 1% pour Peugeot, moins 0,5% pour l'équipementier Valeo. Des valeurs qui souffrent effectivement toujours des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Et puis EuropaCorp repère 6,8% après avoir flambé hier. Le titre de la société de production de Luc Besson avait décollé de plus de 100% dans la perspective d'un rapprochement avec Pathé. Les marchés européens ont rebondi, comme à Paris, rebond de 0,5% pour Francfort et Londres. Bruxelles, plus 0,7%. Amsterdam et Madrid, plus 0,8%. L'exception, c'est Milan qui perd 0,3%. Et puis le CAC 40, lui, termine en petite hausse ce soir.
En petite hausse. Eh bien, écoutez, demain, on vous retrouve. Merci, Claire.
Merci beaucoup.
Claire Lemaitre de Boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Et il est 22h20, c'est donc l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Duteil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir Françoise Bresson, directrice de la communication de Perrier.
Bonsoir Françoise Bresson.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes notamment directrice de la communication et de la RSE de Perrier. On est sur votre stand Perrier, si on peut le dire comme ça, au village à Roland-Garros. Et si on a eu envie de venir vous voir là, ici, au village, c'est que vous êtes l'un des principaux partenaires de Roland-Garros et sûrement l'un des plus anciens. Ça fait 41 ans
Absolument.
Que Perrier est partenaire. Pourquoi
ouais.
donc ?
Parce qu'on est sur un tournoi qui correspond vraiment à l'ADN de la marque. Et effectivement, on est un des plus vieux partenaires. Perrier est une marque qui appartient à la culture française, au patrimoine. Et Roland-Garros, c'est le tournoi symbolique vraiment lié à la France. Donc on avait deux marques très iconiques qui pouvaient se marier. Et le mariage dure depuis très très longtemps. Il n'y a pas eu de divorce.
Il n'y a pas eu de divorce. Et vous avez fait un pari à un moment où Roland-Garros n'était pas le Roland-Garros qu'on connaît aujourd'hui. C'était quasiment au début aussi de l'aventure de Roland-Garros.
Oui, on les a accompagnés et on continue à les accompagner puisqu'on vient de re-signer 5 ans. Donc là aussi, c'est très symptomatique de notre approche partenariale. On les a accompagnés pendant toute leur modernisation et leur montée en puissance. Et là, on va faire de même avec le renouvellement de ce stade puisqu'on a re-signé 5 ans jusqu'en 2023.
Ça coûte cher ?
Ça coûte un petit peu cher, on va dire ça comme ça.
Ça veut dire quoi ?
Mais après, sans trahir de secret, puisqu'on a des accords de confidentialité, mais la fédération communique sur ces montants-là, on est sur des contrats qui varient entre 3,5 et 5 millions d'euros pour notre approche.
On est loin de la fin des travaux, mais c'est un nouveau Roland-Garros quand même, avec un nouveau cours central qui a été mis en place. Quand on est sponsor comme vous, c'était important que Roland-Garros revienne dans la course des grands chelems ?
Oui, absolument. On a plusieurs niveaux dans ces modèles. Modernisation. Il y a bien sûr les joueurs en priorité, comment ils vont apprécier l'expérience sportive, mais il y a aussi les spectateurs. Et c'est vrai que Roland-Garros était aussi victime de son succès, près de 500 000 personnes chaque année. Donc le stade était un peu petit et la modernisation pour nous était vraiment importante pour garder cette notion de premium au niveau
et là,
de l'événement.
Vous en sentez les premiers effets. Alors ça fait quelques jours, on est jeudi, le tournoi a débuté le week-end dernier, mais vous en sentez les premiers effets ?
Alors on les a déjà sentis l'année dernière avec le nouveau village, puisqu'il y a eu là aussi une reconstruction totale d'un village d'accueil pour les invités. Et là, l'expérience est complètement différente et pour moi, c'est une des plus belles prestations aujourd'hui sur le marché en France. Et là, on commence sur le cours central. Alors, le cours central n'est pas encore fini, puisqu'il y avait deux années de chantier. Mais les premiers retours, en tout cas, sont assez bons. Et on attend maintenant le toit et puis les sessions nocturnes.
Oui, parce que, bien évidemment, pour ceux qui regardent Roland-Garros à la télé, ils voient les matchs, mais il y a une vie derrière Roland-Garros. Et c'est aussi ce qui vous intéresse, vous, ici, puisque vous faites venir qui ? Vos clients, vos fournisseurs, c'est une énorme opération de communication pour vous.
Oui, c'est une opération de communication. Près de 1000 invités pendant la quinzaine. C'est des clients qui sont fidèles. Alors, bien sûr, on ne signe pas de contrat à Roland-Garros parce qu'il y a ce mythe de signature de contrat. On n'en signe pas. Mais par contre, ça contribue à la relation qu'on instaure avec nos partenaires.
Et il paraît qu'on se bat entre les marques pour avoir les meilleures loges les plus proches du terrain.
Bien
c'est
sûr.
Vrai chez Perrier.
Alors, on ne se bat pas. Mais par contre, effectivement, la hiérarchie des partenariats et les montants d'investissement correspondent effectivement aux prestations en retour. C'est tout à fait logique.
Alors, si on s'intéresse à ce qu'on voit à la télé, on voit bien évidemment ces glacières Perrier, on voit ces parasols, etc., etc. Est-ce que de façon très concrète, vous êtes capable de dire qu'à la fin de la quinzaine, vous avez augmenté vos ventes grâce à cette opération de communication ?
Alors, c'est à
assez complexe puisque en fait il y a énormément de paramètres quand on est partenaire de Roland-Garros. Il y a bien sûr la visibilité, donc le coin d'hydratation des joueurs est fondamental pour nous puisque on est une eau minérale gazeuse et que c'est important cette partie hydratation dans le moment de jeu. Après vous avez aussi tous les produits qu'on va mettre sur le marché dans les magasins à l'effigie de Roland-Garros, puis vous avez la visibilité télé, donc vous avez énormément de points. Donc je ne peux pas dire spécifiquement parce que ma glacière aura été vue.
Et puis
je
vous avez un élément que vous ne maîtrisez pas, qui est la météo. Qu'une boisson comme Perrier, à 2 degrés d'écart, on ne la consomme pas parfaitement.
Vous êtes un expert de la consommation de Perrier, effectivement. Donc il y a énormément de paramètres. Par contre, effectivement, Roland-Garros contribue à la notoriété de la marque, au fait que les gens aient envie de le faire. Et puis on crée aussi des opérations très spécifiques. Cette année, on a relancé le Smash Perrier, qui est la tyrolienne qui part de la Tour Eiffel. Donc là aussi, on crée de l'appétence auprès de nos consommateurs pour qu'ils aient envie de consommer notre marque.
L'année dernière, par exemple, vous aviez lancé, je crois, de nouvelles boissons Perrier. À ce moment-là, absolument, c'est un élément pour vous capital de l'année. Alors en plus, c'est le début
très
de l'été,
clairement.
C'est le moment où on boit le plus de Perrier.
C'est exactement ça. C'est la période qui, pour nous, est clé dans l'année. Et c'est là où on va condenser toutes nos approches de communication. Et Roland-Garros est une part très forte de ce plan-là.
Alors vous avez une chance extraordinaire puisque les joueurs boivent du Perrier, ou en tout cas nous donnent l'impression d'en boire. Quelles sont les jolies anecdotes que vous pouvez avoir en la matière avec des joueurs qui peut-être n'ont jamais bu de Perrier de leur vie avant d'arriver ici, parce que c'est malgré tout pas une marque mondiale?
Alors on a eu un joueur iconique qui a bu de la Perrier, bu du Perrier, c'était Henri Lecomte. Et c'est vrai que par contre, la boisson gazeuse n'est pas immédiatement consommée par les joueurs pendant l'événement, mais après. Donc après, aujourd'hui, je crois qu'ils sont plutôt assez contents d'avoir cette.
Vous n'allez pas dire l'inverse, de toute façon.
Non, pas aujourd'hui, pas à Europe 1, pas sur votre antenne. Mais en tout cas, c'est la réalité.
Mais c'est un défi que ce soit aussi considéré comme une boisson qui peut être sympa sur un court de tennis quand on joue, nous, simples amateurs qui tentons de faire un revers et un coup droit à la suite.
Mais c'est une marque qui a en fait les mêmes valeurs que ce sport-là, et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est une marque qui est premium, qui a de l'audace, qui a de l'élégance. Donc en fait, on a les mêmes codes. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, effectivement, moi j'aimerais bien que tous les joueurs de tennis consomment du Perrier pendant leur jeu ou après leur jeu.
Comment ça se porte? Je vous y invite d'ailleurs. Comment ça se porte Perrier plus largement? Et on va finir par cela. Ça marche Perrier en ce moment?
Oui, c'est une marque qui se développe énormément. C'est une marque qui est présente dans de nombreux pays à l'international. Et puis avec sa capacité à innover, Perrier & Juice, chaque année on a de nouveaux parfums. Donc c'est vraiment une marque qui plaît de plus en plus aux consommateurs avec ce pan innovation très important.
Et quand ce matin vous avez entendu Laurent Cabrol sur Europe 1 dire qu'il allait faire 30 degrés ce week-end, vous avez dit banco, on va vendre?
Alors forcément la météo a un impact et j'aime bien quand Laurent Cabrol parle de météo avec ses niveaux de température, c'est clair.
Eh bien merci beaucoup Françoise Bresson, la directrice de la communication et de la RSE de Perrier, était notre invitée ce soir. On se retrouvera également du côté de Roland-Garros demain puisqu'on sera avec Babola.
C'était l'invité écho d'Emmanuel Duteil. Merci Emmanuel. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr.
C'était l'invité écho avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour se démarquer. Imprimer des timbres avec le logo de votre entreprise en toute simplicité.
Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain. À tout de suite. À la une de la presse demain, la démocratie turque menacée par le système Erdogan, en une du Figaro. L'annulation des résultats de l'élection d'Istanbul gagnée par l'opposition est la dernière manifestation de l'inquiétante dérive autoritaire du régime turc, souligne Le Quotidien. Pour les échos s'intéressent aux Agnelli, les Agnelli qui refusent de payer plus pour Renault en France. Certains jugent le prix proposé par Fiat Chrysler pour Renault trop bas. La famille Agnelli qui contrôle Fiat Chrysler fait savoir que son offre est non négociable. Les échos également s'intéressent à cette hausse du prix de l'électricité, l'augmentation de 5,9% qui entrera en vigueur dès samedi. Et si la concurrence, et si la hausse des prix dopait la concurrence? La Croix également s'intéresse à cette hausse des tarifs de l'électricité avec une grosse ampoule en une du quotidien. Et cette question, pourquoi la facture augmente, le quotidien La Croix qui précise que cette augmentation de 5,9% est la plus forte depuis 20 ans. Ouest France fait un petit encart également assez économique avec cette fraude à la TVA qui coûte très cher. En 2016, la France a fait une croix sur 21 milliards d'euros de recettes de TVA. Le ministre de l'économie promet des mesures pour récupérer le manque à gagner sur cet impôt indirect. Parmi les accusés, le commerce en ligne. Il est 22h30 sur Europe 1. Il n'y a pas de libre antenne ce soir, mais une soirée spéciale. Christophe Ondelat à l'occasion de la 500e de Ondelat raconte.